Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
La jeunesse congolaise et africaine, invitée à cultiver les valeurs qu'incarnait Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, appel lancé à Kindu par l'ONG Rien sans les jeunes aujourd'hui et demain, ce en marge de la journée internationale Nelson Mandela célébrée le 18 juillet. Inauguration hier à Kinshasa d'un nouveau laboratoire de contrôle de qualité par la société Plantation et Huilerie du Congo. Ce laboratoire permet de détecter et de corriger rapidement les non-conformités en assurant que les produits respectent les normes rigoureuses du marché, indiquent les responsables de cette entreprise. Et puis, l'invité de ce matin, général Eddy Kapende, commandant de la 22e région militaire, il a rencontré cette semaine les agences du système de l'ONU opérationnel dans le Grand Katanga, au menu des échanges, notamment la situation sécuritaire. À tous et à toutes, bonjour. Célébration le 18 juillet de la journée internationale Nelson Mandela. Au Maniema, le coordonnateur de l'ONG Rien sans les jeunes, aujourd'hui et demain, invite la jeunesse congolaise en général et la jeunesse africaine à cultiver les valeurs qu'incarnait Nelson Mandela. Kanga Kongolo, Kanga Nkolo Yumi Luizon exhorte également les leaders politiques à initier cette jeunesse dans des bonnes actions pour ainsi espérer à un Congo meilleur demain, il a dit au micro de Florence Kizalunga.
Le message que nous avons pour cette journée est que Mandela est une icône de référence pour la jeunesse mondiale, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise. Et c'est comme ça qu'en ces jours, j'invite la jeunesse congolaise à suivre le modèle de Nelson Mandela, à aimer la patrie, à travailler pour l'intérêt de la communauté. Et justement, il faut s'écarter des antivaleurs pour aider notre pays. Vous savez, le Congo a autant de problèmes que vous n'allez pas imaginer. Et donc, ce n'est que grâce à une jeunesse responsable, consciente, que nous pouvons parvenir à relever les défis de la République démocratique du Congo. Et à cela, je m'en vais justement pour demander aux autorités politiques, aux hommes politiques, en fait, d'encadrer la jeunesse. Les jeunes, conformément à la résolution 2250 en ces jours, nous devons vraiment faire participer la jeunesse dans le processus de prise de décision. Nous devons impliquer la jeunesse pour la gestion de la chose publique. Et donc, inutile de penser à utiliser, à manipuler les jeunes. Il faut vraiment collaborer avec la jeunesse. Il faut leur partager des expériences afin que ces jeunes soient utiles aujourd'hui et demain.
En Ituri, environ 150 enfants de la rue sont encouragés à intégrer le centre d'encadrement ou leurs familles respectives. À cet effet, une campagne de sensibilisation a été lancée hier par l'organisation Sauvons les enfants vulnérables de la RDC. L'objectif de cette initiative qui cible tous les enfants en errance dans la ville de Bunia est de les préserver contre la délinquance et de leur offrir un avenir meilleur. Reportage de Aminata Moussaïdizi.
Ces enfants, dont l'âge varie entre 5 et 16 ans, viennent des zones touchées par les atrocités de groupes armés. Certains sont orphelins et d'autres se sont séparés de leurs parents à fuir la guerre. D'après la campagne de sensibilisation, 40 enfants ont résolu d'intégrer le centre où ils sont pris en charge et bénéficient des formations professionnelles. Le coordonnateur de l'ONG Sauvons les enfants vulnérables de la RDC demande aux personnes de bonne volonté de s'impliquer pour éradiquer ce phénomène. Ramazan Issikouli.
Nous avons un centre d'encadrement. Actuellement, nous avons 20 enfants. Face à une multitude d'enfants dans la rue ici, ce n'est rien. Nous demandons à ce que nous puissions être renforcés en capacité pour que nous puissions être en mesure de récupérer les enfants qui sont encore dans la rue.
Le président de l'Assemblée provinciale citoyenne plaide pour le établissement de la paix en vue d'éradiquer ce phénomène. Augustin Kpadjoumalo.
L'avenir de demain, c'est dans la main de ces enfants que de la rue que nous venons de les sensibiliser maintenant dans le cadre de rejoindre les centres d'encadrement pour un avenir meilleur.
Plus d'un millier d'enfants traînent dans les rues à Bunia. Certains se livrent à la consommation des drogues et d'autres ont choisi le banditisme pour survivre.
Au Nord Kivu, le chef du secteur de Bapere dans le territoire de Lubero appelle les jeunes à ne pas s'attaquer aux militaires ougandais UPDF qui appuient les FARDC dans la traque des EDF dans cette partie du territoire. En effet, mardi et mercredi, des jeunes gens armés s'en étaient pris à des convois des UPDF sur le tronçon Butembo-Mangurejipa pour Maker Sivikunula, chef du secteur de Bapere. La présence des UPDF dans sa juridiction est l'une des solutions au calvaire que vit la population depuis la présence des rebelles des EDF il y a un mois dans la région. Maker Sivikunula l'a dit à la presse de Mangurejipa, dont voici un extrait choisi par Guylaine Kassassia.
Nous avons reçu les troupes de l'UPDF. Ils viennent en appui au FARDC. On doit mettre fin à cette aventure des ADF. Je crois que vous connaissez l'impact de l'appui de l'UPDF dans la partie de Beni, aujourd'hui à Mwalik, dans le Karoroma. Pour nous, l'UPDF qui vient en appui au FARDC, juste nous neutraliser ce serpent est la bienvenue. Dans le secteur, nous sommes des agriculteurs. Nous avons besoin de pouvoir retourner dans nos champs et dans nos villages. C'est ça ce qui nous importe à nos jeunes frères de Butembo. Ici, nous sommes en train de vivre une triste expérience de la présence de ces ADF. Essayez de nous aider. L'histoire des politiques derrière la présence des ADF, je n'en vois pas. Pour nous, ce qui importe, c'est que on puisse nous enlever ce serpent. Nous sommes vraiment très mal positionnés aujourd'hui, en voyant nos populations se déplacer à masse. Ils vont mourir de faim. Laissez qu'on nous enlève ce serpent-là, s'il vous plaît.
Nord Kivu toujours, plusieurs agglomérations du territoire de Lubero sont privées d'électricité depuis mardi soir. Des habitants en colère ont, au cours d'une manifestation, endommagé la centrale hydroélectrique d'Ivingu de Virunga Energy. Une situation qui a plongé la majeure partie du territoire de Lubero dans le noir. Même la zone économique spéciale de Moussienene en est impactée. Récit des faits avec Sadiki Aboubakar.
Tout est parti de la blessure par balle d'une femme mardi par un éco-garde du parc national de Virunga dans le village d'Ivingu. De nombreux habitants du village en colère ont manifesté devant le site de Virunga Energy pendant toute la soirée jusqu'à endommager le canal d'amener de la centrale hydroélectrique d'Ivingu. Ce qui a occasionné la coupure du courant électrique dans toute la partie nord du territoire, y compris la zone économique spéciale de Moussienene, rapporte des sources locales. Bienvenue Bouende, chargé de communication de l'ICC Nord Kivu, affirme que la victime a été immédiatement dépêchée à Goma par un hélicoptère de l'ICC pour des soins, tandis que son bourreau est encore en cavale. Il ajoute que des recherches sont depuis lors en cours pour mettre la main sur le fugitif, afin qu'il réponde de ses actes. À l'heure qu'il est, l'équipe technique de Virunga Energy est à pied d'œuvre pour évaluer l'ampleur des dégâts et voir comment relancer la desserte en électricité dans toute la zone, rassure Bienvenue Bouende. Signalons que des habitants en colère sont restés en sit-in devant les installations de Virunga Energy jusqu'à mercredi tard dans la soirée. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, inauguration hier à Kinshasa d'un nouveau laboratoire de contrôle qualité par la société Plantation et Huilerie du Congo, PAC. Selon les responsables de cette entreprise agricole spécialisée dans les plantations d'huile de palme, ce laboratoire permet de détecter et de corriger rapidement les non-conformités, assurant ainsi que les produits respectent les normes rigoureuses du marché. Paulin Dédi, le directeur technique de PAC, explique au micro de Grâce Hamzati.
Le laboratoire qui vient d'être inauguré, je dirais que c'est un nouveau laboratoire, mais qui vient en appui aux trois autres laboratoires que nous avons déjà. PAC a dans chaque usine, au niveau de la production, un laboratoire qui contrôle la qualité des huiles de palme pendant la production, jusqu'à l'expédition vers les clients. Maintenant, il arrive que le produit puisse quitter à des milliers de kilomètres, à plus de 1000 kilomètres par exemple, pour arriver jusqu'aux clients. Et pendant ces temps, lorsque le produit arrive, nous devons encore nous rassurer que le produit n'a pas été altéré. Donc, ce laboratoire vient encore en appui pour faire un deuxième contrôle, pour certifier que l'huile, jusqu'à l'arrivée, a été dans les bonnes normes. Mais pas seulement cela, nous sommes à la recherche de la perfection. Et vous savez, plus on fait des contrôles, mieux on va vers la perfection. Donc, un seul contrôle peut ne pas être suffisant. Donc, ce contrôle que nous faisons ici avec ce laboratoire sera un double contrôle que nous installons.
Sachez que la société Plantation et Huilerie du Congo opère essentiellement dans les provinces de la Tchopo, de la Mongala et de l'Équateur. Direction l'Ituri, l'hôpital général de Mongwalou éprouve d'énormes difficultés pour la prise en charge des malades depuis les récentes attaques des groupes armés dans les entités de Lodjo et Pluto dans le territoire de Djougou. Didier Kpai, responsable de cet hôpital, précise que le stock de médicaments est insuffisant pour soigner environ 50 patients alités actuellement sur place. Il lance un appel à l'aide aux personnes de bonne volonté. Didier Kpai, joint par Ezekiel Mousalia.
Un déplacement massif de la population ici à Mongwalou. Il y a eu des blessés, des victimes de cette histoire, autant des militaires et même des civils qui étaient blessés, qui sont allés à l'hôpital. La prise en charge, vous voyez, ce sont des gens qui se sont déplacés sans moyens. Ils n'ont pas d'argent. C'est quelque chose qui est arrivé subitement. Ils ne se sont pas préparés pour ça. Et donc, ils sont démunis. Quand ils arrivent même à l'hôpital, ils n'ont pas le moyen pour s'acheter une fiche pour la consultation. Nous, en tant que corps soignant, nous savons très sincèrement pour venir en assistance à ces gens. Et malheureusement, si nous n'avons pas les produits pour les aider, comment nous allons nous comporter? Nous vivons en ce moment difficilement. Vous voyez quelqu'un dans un état critique. Malheureusement, il n'a pas les moyens pour s'acheter des médicaments. Et les médicaments de l'hôpital, c'est une quantité peu minime qui ne permet pas de venir en assistance à tout le monde. Et donc, voilà pourquoi je l'ai dit, qu'on nous vienne en aide d'une manière ou d'une autre, même à produits médicaux pour pouvoir les aider, les soutenir et ne pas les abandonner.
Notez que plus de 40 000 personnes venues des différentes localités minières se sont déversées à Mongwalou où elles vivent dans des conditions difficiles. Au Kasaï central, l'Association nationale des albinos du Congo déplore des cas de décès par manque de prise en charge des personnes atteintes d'albinisme touchées par le cancer de la peau. Le coordonnateur provincial de cette association l'a dit hier à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la journée de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion pour Étienne Tshisekedi d'appeler l'État à l'assistance aux albinos qui ont régulièrement besoin d'un traitement avec des produits de peau et de soins appropriés. Les propos d'Étienne Tshisekedi sont recueillis par François Kadima.
Dans notre province de Kasaï Central, nous avons beaucoup de personnes atteintes d'albinisme. Parmi la population, les personnes atteintes d'albinisme sont tellement nombreuses. Moi-même, quand nous avons fait l'investigation, nous avons trouvé que non, ils sont nombreux. L'année passée, nous avons eu enterré plusieurs personnes atteintes d'albinisme qui sont attrapées par cette maladie, mais il n'y avait pas vraiment une intervention des médicaments. Quand une personne atteinte d'albinisme est attrapée par une maladie cancéreuse, à ce qui concerne notre peau, il meurt. Le message est clair. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons célébré notre journée. Nous voudrions que les autorités pensent beaucoup aux personnes atteintes d'albinisme parce qu'ils vous souffrent beaucoup. Nous voulons que nos autorités sécurisent bien les personnes atteintes d'albinisme parce que ce sont des humains comme tout le monde.
En politique, Augustin Kabuya, destitué de son poste de secrétaire général de l'UDPS, le parti lui reproche d'accaparer les postes au sein du gouvernement à son profit. Cette décision a été annoncée hier jeudi à Kinshasa lors d'un point de presse organisé par l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social. On écoute à ce sujet Adrien Kalenga, porte-parole de l'UDPS, au micro de Arcel Kajuro.
Rappelons qu'en date du 11 juillet 2024, nous, présidence du parti, avons pris la décision de retirer notre confiance à M. Augustin Kabuya Tshilumba, de ne plus le reconnaître comme secrétaire général du parti pour les faits lui reprochés tels qu'il est repris dans la déclaration qui a été largement diffusée. Retenez donc que l'UDPS reste un parti uni et indivisible. La contradiction à l'intérieur du parti n'entraîne pas la scission du parti, parce que c'est la majorité qui donne l'élan à l'ensemble d'un organisme. Cela va sûrement entraîner des modifications et des adaptations à gauche à droite. Pendant que cela va se faire, la gestion quotidienne du parti sera conduite sous la direction du doyen d'âge, le secrétaire national du parti, Maître Mukendi Membou.
Radio Kapi a tenté en vain d'avoir la réaction d'Augustin Kabuya ou même de ses proches. Toutefois, dans un communiqué signé mercredi, Augustin Kabuya, agissant comme président intérimaire de l'UDPS, exhorte toute la base du parti à rester unie.
Actualité internationale.
La police kényane interdit les manifestations dans la capitale Nairobi pour une durée indéterminée, invoquant l'absence d'un leadership susceptible de garantir des manifestations pacifiques. Le Kenya a connu un mois de manifestations qui ont commencé par des appels aux législateurs pour qu'ils votent contre un projet de loi de finances controversé qui proposait des impôts plus élevés dans un contexte de crise du coût de la vie et d'explosion de la dette publique. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 50 personnes sont mortes depuis le début des manifestations le 18 juin.
L'invité.
Nous recevons le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend, dans un entretien accordé à Radio Kapi en marge de sa rencontre mardi avec les agences du système des Nations Unies. Il est revenu sur la situation sécuritaire et les puneuses questions de la présence des militaires dans les sites miniers. Le général Eddy Kapend s'entretient avec Jean Gandou.
Bonjour, général Eddy Kapend, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelque temps, on a vu beaucoup de militaires déployés ça et là, à travers la ville. Y avait-il un problème particulier ou c'est un déploiement de routine?
Les soldats sont là pour protéger le pays. À chaque fois que la menace est signalée d'ici là, et les soldats se mettent en ordre opérationnel. Et donc, les voir circuler ou les voir passer, il n'y a rien d'extraordinaire.
Il y a eu des barrières érigées ça et là. Il y a des gens qui se sont plaints, notamment qui ont parlé des tracasseries et tout. Qu'est-ce qui a pu bien justifier la présence de ces barrières?
La barrière, c'est une mesure ponctuelle qu'on installe dans les dispositifs pour pouvoir donner sécurité et protéger tout le monde. Lorsque nous avons des menaces d'infiltration dehors de la loi, lorsque nous avons la menace de commercialisation ou de déplacement des armes et des effets militaires, spontanément, nous prenons des mesures pour pouvoir mettre fin à ça. Et c'est pour cela que nous avons placé pendant une certaine période où la menace était pertinente. Nous avons été obligés de décider de restreindre justement la circulation en mettant des roadblocks. Ça nous a permis de démanteler beaucoup de réseaux. Au fur et à mesure que les choses se calment et que nous avons l'assurance de maîtriser la situation, il est naturel que nous devons soit les enlever, soit de les disposer de manière ponctuelle. S'il est important de les placer sur telle voie, on le fait. Le lendemain, on peut ne pas le faire là-bas parce que si la barrière devient permanente, elle devient inutile. Les criminels, ceux qui y a barrière, sur telle voie, de telle heure à telle heure, il ne passera pas. Il attendra passer là où il n'y en a pas. S'il n'y a pas de menace, s'il n'y a pas circulation de toutes ces mauvaises choses, il n'y aurait pas raison de mettre des barrières. Donc, si la population participe à rechercher la sécurité avec la police, avec l'armée, nous n'aurons pas raison de placer toutes ces barrières. Nous punissons les soldats qui débordent. C'est d'ailleurs pour cette raison que je prends rapidement des mesures pour pouvoir les alléger, si pas les supprimer provisoirement. Nous allons toujours récupérer ce type de tactique. Le moment venu, si jamais la raison nous intéressait, nous avons protégé des gens par ces barrières. Mieux vaut être bloqué sur la barrière, être contrôlé, vous allez chez vous en sécurité jusqu'à demain, plutôt que ne pas trouver une barrière de contrôle qui empêche la menace. Quand vous arrivez chez vous, peut-être en descendant de votre véhicule, quelqu'un peut vous braquer derrière la nuque pour vous dire, descendez. Alors que si vous avez fait 2 minutes sur la route, on vous procure la sécurité, la barrière était aussi importante que ça.
Le réseau que vous avez démantelé était constitué de quel type de personnes?
Il y a des civils, il y a aussi parfois des anciens militaires, et même certains militaires qui sont encore actifs, qui pour des raisons idéologiques et politiques, arrivent à Mais chaque fois que nous mettons la main dessus, la sanction est grave sur les militaires et sur les civils qui sont pris aussi. Il y a des gens qui se recrutent pour aller rejoindre la rébellion et qui pensent qu'ils peuvent prendre les armes de tel point pour les amener dans telle forêt, former tel type de personnes. Beaucoup sont arrêtés. Nous avons sérieusement travaillé et je crois que nous avons réussi.
Qu'en est-il de la présence des militaires dans les sites miniers? Vous avez longtemps demandé qu'ils quittent, mais ils ne quittent toujours pas et ils se renforcent davantage.
Mon souci à moi, c'est de chercher un cadre de discussion avec les miniers, avec l'autorité politique administrative, avec les agences, avec les droits de l'homme. Mais pour qu'on discute pourquoi il y a des militaires dans des mines. Souvent, au loin, on accuse la présence des soldats dans les mines. Mais les soldats, c'est qui? C'est un protecteur, c'est une sentinelle. L'espace de mine, ce que la population ne sait pas, n'est pas que pour le cuivre. Nous avons des matières qui sont interdites ni à l'exploitation, ni à la commercialisation. Ces minerais-là, qui sont des minerais stratégiques, ne peuvent être contrôlés que par les militaires. Et c'est en brousse. Quand vous trouvez un soldat qui est en brousse, à Chinko ou à Kambov, ou je ne sais pas moi, dans tel coin de notre province, tout de suite vous dites, ils sont dans la mine. Mais ils sont dans la mine, justement, pour protéger ces sites qui sont stratégiques et qu'on ne peut pas exploiter.
Il y en a qui exploitent les minerais, mon général.
D'une part. D'autre part, vous avez des matières et des matériels d'explosion qu'on utilise pour casser dans les mines. Vous savez, les roches, on ne les casse pas avec une houe, c'est avec des explosifs. Et les explosifs sont du domaine de la défense. Il n'y a que le militaire qui doit surveiller l'utilisation de ces explosifs que les miniers utilisent. Et voilà pourquoi, de temps en temps, la GECAMINE demande par écrit. Il y a KCC, qui est une société de mines, qui demande le militaire. Il y a Fteng et Fungurume qui demande. Il y a plusieurs sociétés qui sont officiellement protégées par les forces de défense. Et tout ça, ce sont des militaires de la 22e. Moi, j'ai des instructions de ma hiérarchie de dégager tous les militaires. Et je l'ai fait. J'ai dégagé plus de 860 soldats que je viens de réorganiser en un bataillon de combat qui sont disponibles maintenant. Mais pour d'autres raisons, les soldats sont encore là. Nous sommes obligés de continuer à les sensibiliser, à les retirer. Pour ceux qui sont de manière irrégulière, c'est interdit. Ils sont de manière régulière. Ils doivent continuer à travailler.
Mon général est décapé, je vous dis merci.
Merci.
Le commandant de la 22e région militaire répondait aux questions de Jean Gandou Kabongo. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de rester branché en compagnie de Bayat Chamala.